Bonjour à tous, chers auditeurs. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue des multiples facettes de l'actualité. Une actualité pour le moins bien remplie cette semaine. Et au menu pour ce journal radiophonique amplifié du samedi 19 novembre, nous aurons une revue de presse, les billets de nos éditorialistes scientifiques et économiques, et puis enfin le journal de la culture. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres, amplifié pour vous par Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Rémi. Commençons sans tarder par les informations nationales. De nombreux événements ces derniers jours, comme la fin de la grève à Itélé ou un nouveau témoignage dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Sans grande surprise, Emmanuel Macron a annoncé sa candidature au présidentiel. De nombreuses pistes existent quant au choix de la date, notamment autour du fait qu'il manque encore de soutien. L'ancien ministre de l'économie a officiellement démissionné jeudi de la fonction publique après avoir lancé son mouvement En Marche le 6 avril 2016. La date choisie est bien sûr avant la déclaration de Hollande sur sa candidature ou non à son propre poste, mais c'est aussi quelques jours à peine avant la primaire de la droite et des centres qui la boycottent de dimanche. Déjà beaucoup disent qu'il va peser dans la balance et voler des voix à certains, mais la question du « à qui » reste entièrement ouverte pour le moment. Ce week-end aura donc enfin lieu la primaire de la droite. Selon une enquête Fondapol, presque la moitié des électeurs avérés pour le scrutin de ce week-end est composée de personnes de plus de 65 ans et retraitées. Celles-ci considèrent toutefois que la mondialisation est une chance et que l'Europe est une source d'espoir, alors que moins de la moitié du total des électeurs pensent la même chose. On trouvera aussi ce week-end 10% venant de la gauche et 11% du FN. Un Français dans l'espace, ce n'est pas tous les jours. Dans la nuit du 17 au 18, Thomas Pesquet décollera à bord d'une Soyouz, fusée russe datant des années 60. Le Français va rejoindre l'ISS avec un Russe et une Américaine. Une fois la mise en orbite effectuée en environ 8 minutes, ils mettront 2 jours pour se raccrocher à l'ISS. N'oublions pas qu'il amènera avec lui dans la Station Spatiale Internationale une expérience conçue ici même à l'ENS de Lyon pour le nettoyage de l'ISS. François Hollande a annoncé la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au présidentiel. On trouve toutefois qu'un léger changement a été fait, il n'y aura plus de garde statique devant les lieux de culte, a promis Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Pour l'international maintenant, 2 semaines chargées, entre la bataille de Mossoul et un bras de fer institutionnel au sein de l'Union européenne sur la question du budget. Mais d'autres informations ont aussi retenu notre attention. En Ukraine, l'isolation de Tchernobyl commence après près de 4 ans de travaux. Voilà 30 ans que la catastrophe a eu lieu. La solution pour le siècle à venir est de glisser un sarcophage parfaitement isolant sur le réacteur numéro 4. C'est un des chantiers les plus difficiles de notre époque, car il s'agit de faire glisser sur plus de 300 mètres pas moins de 36 000 tonnes de matériaux. Les travaux ont commencé en 2012, mais touchent enfin à leur fin. Alexei Ulyukayev, ministre de l'économie russe, a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi pour corruption par les services secrets russes. Il a été interrogé puis assigné à résidence. Il aurait cherché à extorquer 2 millions de dollars au groupe pétrolier Rosneft en échange de son feu vert pour le rachat d'une entreprise nationalisée à hauteur de 5 milliards de dollars. De nombreux doutes pèsent sur la validité de cette arrestation et sur les véritables raisons derrière, mais le FSB dit avoir agi avec des preuves solides. Cette semaine, Barack Obama était en visite en Grèce pour la première fois de son mandat. Beaucoup estiment que cette visite n'avait pour but que de rassurer après l'élection de Trump qui est, selon Obama, difficile de faire plus différent que le prochain président américain et lui-même. Il en a profité pour marquer sa position contre l'austérité imposée à la Grèce en espérant changer le point de vue de Berlin sur la question. Pour finir très rapidement, avant les 2 sujets de la semaine, la Commission européenne a rendu mercredi dernier son verdict sur les budgets européens dont certains menaçaient de n'être pas conformes. C'est le cas par exemple du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie, mais aussi de la France. La Commission a fait preuve de souplesse sur ces questions pour différentes raisons, comme l'accueil des migrants, le soutien au gouvernement Renzi, les tremblements de terre en Italie, les cures d'austérité chez les Ibères et l'absence de gouvernement pendant une longue période en Espagne. Mais 2 sujets ont été utilisés pour réduire les peines, le Brexit et l'élection de Trump, principaux fournisseurs d'instabilité au sein de l'Union européenne. Penchons-nous à présent sur 2 sujets particulièrement chauds ces dernières semaines. Tout d'abord, sans surprise, l'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Il prendra sa fonction en janvier prochain, mais doit dès à présent choisir son cabinet. Avant cela, quelques retournements pour le moins intéressants sont à considérer par rapport à cette victoire de Trump. Le milliardaire qui a réussi son pari à coups de discours choc et de verve à l'oral est revenu sur certains points de sa campagne. Obama n'a pas hésité à dire de lui que c'était un pragmatique, contrairement à l'image qui s'est formée autour de lui ces dernières semaines. En effet, après la rencontre à la Maison-Blanche entre Trump et Obama, Le prochain président a annoncé vouloir réfléchir à la question de l'Obamacare pour n'en garder que le positif, sans dépenses futiles. Selon Trump, l'Obamacare serait soit amendé, soit abrogé, soit remplacé. Pourtant, le nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche, l'actuel président du Parti républicain Reince Priebus, a tenu des propos nettement plus fermes sur la question. En ce qui concerne les expulsions promises par le milliardaire, le chiffre a été largement baissé jusqu'à atteindre les statistiques du mandat d'Obama. En ce qui concerne les relations internationales, Trump a fait un pas en arrière sur ses déclarations concernant la réduction des dépenses de l'OTAN, ainsi que sur l'intérêt à doter le Japon et l'Arabie Saoudite de l'arme nucléaire. Pour l'accord sur le nucléaire iranien, le nouveau président est bloqué par le droit international et son conseiller pour les affaires étrangères a préféré préciser que le texte serait relu, modifié par endroits et la nouvelle proposition serait proposée au Sénat et aux Iraniens. Pas d'affolement sur ce point. Il semblerait donc que malgré des promesses de campagne toutes plus exagérées les unes que les autres, Trump soit devenu raisonnable, maintenant son siège au bureau ovale réservé. Comme l'a annoncé Scott Pelley, présentateur d'un JT américain sur CBS, tout ira bien pour une simple et unique raison. Les pères fondateurs ont conçu un système où le président est bloqué de toutes parts pour ne jamais tomber dans un régime centré autour d'un homme et de ses désirs possiblement fous. Passons maintenant à un sujet plus proche de nous encore, toujours dans le monde anglo-saxon. Le Brexit fait à nouveau débat depuis la parution d'une circulaire interne au gouvernement britannique. Il semblerait en effet qu'il n'y ait aucune stratégie avancée ni de plan commun décidé. Ce qui est sûr pourtant, c'est que la première ministre Theresa May tient à être au centre des négociations côté anglais. Elle avait promis d'invoquer l'article 50 du traité sur l'Union européenne avant mars 2017, mais la récente déclaration de la Haute Cour de Londres a ralenti le processus. En effet, le Parlement devra donner son accord au Brexit et si les conservateurs ont la majorité dans la Chambre des communes, ce n'est pas le cas chez les Lords. Mais le gouvernement britannique a divulgué un projet de loi selon lui en béton armé qui fait actuellement 3 lignes. Cette note avait fait chuter quelque peu le cours de la livre mardi dernier. Il semblerait donc que le Brexit n'est pas encore une certitude si bien orchestrée que ça du côté de nos voisins britanniques. Alors qu'en est-il de l'Union européenne ? Les négociateurs ont déjà été sélectionnés, à savoir un Français spécialiste des négociations internationales, ainsi que le libéral Guy Verhofstadt, dont la candidature à la présidence de la Commission avait été rejetée plusieurs fois, notamment à cause de David Cameron, ancien Premier ministre du Royaume-Uni. L'Union européenne prépare depuis le sommet de Bratislava en septembre dernier son après-Brexit. Petit exemple d'idée en cours de mise en place, un système d'entrée payante dans l'espace Schengen à 5 € qu'il faudra avoir validé 72 heures avant son arrivée. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va donc être un processus long et pour le moins hasardeux, du moins pour les Britanniques. Cette affaire reste à suivre et je tiens à préciser que tant que les négociations n'auront pas abouti, nous sommes toujours dans une Europe à 28.
Merci beaucoup Pierre pour ce journal. Et on reste dans les actualités avec la revue de presse présentée aujourd'hui et comme d'habitude par Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Rémi.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors, dans la presse ces jours-ci, tout le monde a l'air de chercher les électeurs de la primaire de la droite.
Ouais, exactement, Rémi. Le 1 y consacre tout son numéro cette semaine. « Primaire, faites vos jeux », c'est ce que titre l'hebdomadaire. Et ce sont les propos du sociologue Bruno Cotterès qui ont retenu mon attention. Bruno Cotterès, j'espère que je prononce pas mal, c'est un chercheur qui appartient au CEVIPOF, un observatoire de la vie politique rattaché à Sciences Po. On se pose avec lui la question du poids des « infiltrés », ces sympathisants de gauche ou d'extrême droite qui se rendront aussi aux urnes dimanche 20 novembre. D'après les enquêtes quantitatives menées auprès de 20 000 votants, c'est un gros panel, les infiltrés de gauche voteraient presque tous pour Juppé, quand les infiltrés du FN paraissent plus hétéroclites, avec des voix pour Sarkozy bien sûr, mais aussi pour Juppé ou Le Maire. Reste que pour Bruno Cotterès, le vote infiltré n'est pas décisif, et la bataille ailleurs. Sur la mobilisation des centristes pro-Juppé, et sur la capacité de Sarkozy à mobiliser autour de lui pour arriver en tête au premier tour et créer stratégiquement un effet d'entraînement.
Et dans le monde, c'est d'autres électeurs qu'on rencontre, des électeurs ruraux.
Oui, vous en étiez peut-être resté comme moi à chasse-pêche, nature et tradition. Grave erreur ! Le Monde consacrait jeudi 17 novembre une enquête à l'électorat chasseur, structurée désormais autour de la Fédération nationale des chasseurs et de son nouveau leader depuis août dernier, Willy Schrein, ouvertement pro-Sarkozy. La fédération affiche très clairement des ambitions politiques, d'après le quotidien. Les chasseurs, ce sont tout de même 150 à 200 000 électeurs potentiels, généralement vus comme une entrée privilégiée dans le monde rural. d'où les tentatives de séduction plus ou moins subtiles, comme cet email signé par l'équipe de Nicolas Sarkozy et envoyé à des milliers de chasseurs le 28 octobre via une liste de diffusion récupérée Dieu sait comment. Mais tirer sur des palombes ne suffit pas à faire une unité politique, et l'article se conclut surtout sur les divisions de fait entre circonscriptions locales de tendance socialiste, sarkozyste ou frontiste.
Bon alors, ça c'est pour les électeurs, et puis parlons un petit peu des candidats eux-mêmes.
Oui, qui dit primaire de la droite, et théoriquement du centre, dit une du Figaro le 17 novembre toujours. Trois entretiens pour convaincre. Oula. Le titre est un peu présomptueux, parce que bon, on peut quand même entendre les candidats Les Républicains ailleurs que sur le Figaro pour se faire un avis. En tout cas, il semblerait, mais c'est peut-être une malice de ma part, il semblerait que le quotidien ait déjà fait son petit tiercé dans l'ordre. Juppé, Sarkozy, Fillon. Trois portraits en plan américain, trois interviews aux questions similaires et trois caractères qui se posent. On a un Juppé assez détendu, prêt à rire, qui voudrait qu'on parle moins de personnalité des candidats et plus des questions de fond. On a un Sarkozy très langue de bois, surtout quand on lui demande ce qu'il a le moins réussi dans cette campagne. Et un Sarkozy vénère, surtout quand on lui parle des révélations de Mediapart à charge contre lui. On a enfin un Fillon verbieux, qui se justifie dans des réponses très longues, mais qui, en façade, tel un Charles Aznavour, se voit quand même déjà bien en haut de l'affiche.
La presse pouvait pas non plus passer à côté de l'annonce de Macron mercredi dernier.
Oui, Macron, c'est l'homme qui, je cite, « fait souffler un zéphyr de nouveauté sur la vie politique ». C'est beau, n'est-ce pas ? C'était sous la plume de Laurent Geoffrin dans l'édito de Libération le 17 novembre. Libé, qui nous expliquait donc à la fois comment Macron pouvait y arriver alors que quand même vraiment il n'a aucune chance, faites-vous un avis avec ça. Par contre, pour Le Monde, à chaud, c'est l'image de l'homme qui, je cite, est déjà à elle seule un programme. L'article refait le portrait du banquier d'affaires, même pas quarantenaire, avec moins de 50 politiques derrière lui, qui annonce sa candidature dans un centre d'apprentissage de la banlieue parisienne, en pleine primaire de la droite, et surtout hors primaire de la gauche. Alors Macron parle aux progressistes de gauche, Macron parle aux progressistes de droite, Macron parle à tous les Français. Moi, après l'image, j'attends surtout de lire le programme.
Et on termine cette revue de presse avec des questions d'image et de visibilité sur Internet.
Ouais, toujours dans le numéro de Libération du 17 novembre, on enquête sur la diffusion de mensonges et intox pendant la campagne présidentielle américaine. Facebook et Google en cure de désintox ? La journaliste montre comment la mise en avant de sites de désinformation parmi les premiers résultats de recherche sur Google, comment le partage massif de posts Facebook relayant des fake news, comme on dit chez les ricains, ont contribué à mettre sur le même plan mensonges et informations vérifiées. Au point, peut-être, d'avoir permis l'élection de Trump. Le ton est accusateur vis-à-vis des grosses entreprises du web, de leurs moyens de contrôle clairement mous, de leurs craintes paralysantes de la censure, dans un pays où la liberté d'expression a une signification autrement moins limitée ou autrement plus étendue, ça dépend comment on regarde les choses, qu'en France. Aucun parallèle critique n'est fait avec la France, justement, cependant, et c'est dommage, on aurait peut-être eu à y gagner en termes de réflexion, en termes de traitement de la vie politique française, surtout au moment où Libé lance son observatoire des droites radicales, baptisé, vous allez voir, c'est rigolo, baptisé « L'œil sur le front ».
Oh, c'est mignon. Merci beaucoup Marie pour ta revue de presse. Et du coup, je me tourne maintenant vers Robin qui va nous parler d'économie. Bonjour à toi Robin.
Bonjour Rémi, je vais vous parler encore d'un chiffre cette semaine, 45%, c'est la taxe à l'importation que Donald Trump réserve à la Chine. Dans sa campagne, Donald Trump avait promis une trade war, une guerre commerciale contre la Chine. C'est une guerre commerciale qui passerait par l'instauration d'une taxe, une taxe sur les importations américaines qui viendrait de la Chine et qui serait à 45%. En fait, depuis 2005, les surplus commerciaux en Chine augmentent, et en particulier vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire que les échanges entre la Chine et les États-Unis sont déséquilibrés. Les Chinois vendent beaucoup aux Américains et ils leur achètent peu de choses. Ce gap dans les échanges s'élève à une valeur de 400 milliards, ce qui est assez conséquent. Et Donald Trump a expliqué ce déséquilibre par le fait que la Chine ferait des manipulations monétaires. Il les qualifie de « currency manipulator ». Il pointe notamment une mesure du gouvernement chinois d'août 2015, où ce dernier aurait fortement déprécié sa monnaie. Un yuan valait alors moins de dollars, et donc inversement, un dollar valait plus de yuan. Et donc cela aurait stimulé les exportations chinoises, et les conséquences pour Trump étaient simples, on ne produisait plus aux États-Unis, et du coup, il y avait plus de chômage.
Du coup, si on taxe les importations chinoises, on lutte contre le chômage.
En théorie, oui. Enfin, oui, si Trump avait raison. En fait, son calcul est assez faussé. Dans la mesure, en fait, l'excédent commercial de la Chine remonte à plus loin, à environ 2005. Puis un autre point important, il faut regarder que le commerce international chinois s'intègre en fait dans un réseau mondial de production et pas seulement avec les États-Unis. La Chine exporte certes beaucoup, et notamment vers les États-Unis, mais elle importe également beaucoup. Elle n'importe pas des États-Unis. Mais donc les manipulations monétaires se jouent sur tous les niveaux. C'est un peu comme l'Angleterre victorienne, la Chine, elle transforme, elle importe des produits, elle les modifie industriellement, puis elle les vend aux Américains. Mais du coup, le jeu monétaire fonctionne aussi à l'importation. Si sa monnaie est plus faible, la Chine va payer plus cher pour acheter ses produits d'importation qu'elle va transformer. Et du coup, l'augmentation des prix se transmettra sur les produits qu'elle va exporter. Donc les attaques de Trump sont assez injustes de ce point de vue. C'est peut-être plutôt que la Chine est un bon bouc émissaire pour le nationalisme américain.
Et quelles seraient alors les conséquences d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ?
Du coup, ce ne serait probablement pas ce qu'anticipe Trump. Ses conséquences sont assez indéterminées, mais elles devraient être assez importantes. Les attaques de Trump vis-à-vis de la Chine sont assez dangereuses, parce qu'en fait, les relations entre les États-Unis et la Chine ne se résument pas à un jeu commercial. Il y a aussi de sombres histoires de dettes et de créances. En fait, jusque récemment, la Chine a eu tendance à épargner énormément. Il n'y a pas de déficit du gouvernement en Chine, au contraire, la Chine a trop d'argent. Et au même moment, les Américains n'en ont pas assez. Et les ménages consomment au-delà de leurs moyens, comme le fait le Trésor américain. Ils ont donc besoin d'emprunts. Et à qui vont emprunter les Américains, du coup ? Ils empruntent aux Chinois. Donc on est face à un circuit assez simple. Les Américains veulent consommer, ils empruntent à la Chine à des taux d'intérêt assez intéressants pour eux, et ces emprunts servent à acheter des produits que la Chine exporte aux États-Unis. Et donc ce qui fait que la Chine possède une grosse partie de la dette globale américaine, et en particulier de la dette publique, de la dette du Trésor. C'est ce qu'on appelle des obligations. C'est-à-dire que le Trésor demande une certaine somme d'argent, il donne en échange une obligation, un titre, et s'engage à payer le possesseur de ce titre une certaine somme d'argent chaque mois. Et la Chine, puisqu'elle possède ses obligations, a du pouvoir sur le Trésor, puisque ça lui donne du pouvoir aussi sur le dollar et sur les taux d'intérêt de ses obligations. Également sur le taux d'intérêt bancaire aux États-Unis. Elle aura donc le pouvoir d'engendrer une forte baisse du dollar et une augmentation des taux d'intérêt, qui pourrait conduire à une récession aux États-Unis, c'est-à-dire à une croissance nulle, voire négative, ce qui veut aussi dire plus de chômage, ce que Trump redoute particulièrement. Alors pourquoi la Chine n'a pas encore usé de cet instrument ? C'est parce qu'en fait, si les États-Unis vont mal, la Chine aussi irait mal. Comme elle a beaucoup d'investissements faits en dollars aux États-Unis, elle peinerait d'une récession américaine. D'ailleurs, le président Xi Jinping a appelé Donald Trump lundi dernier pour l'inciter à coopérer avec la Chine, et donc ce qui montre qu'il a une certaine crainte vis-à-vis de la politique de Trump. La Chine ne veut pas de trade war. Mais si elle n'en veut pas, ce n'est pas tellement parce qu'elle a peur de perdre, c'est plutôt que le coût serait trop grand et malvenu. En ce moment, tout va bien pour son commerce, et en réalité, s'il y avait une trade war entre la Chine et les États-Unis, probablement que les États-Unis en pâtiraient plus que la Chine, mais la Chine serait obligée de faire des sacrifices. Et d'ailleurs, la situation actuelle est assez particulière, ce qui ferait que ce serait assez compliqué pour les États-Unis de mener à bien cette guerre commerciale, parce que le marché des obligations mondiales est très volatile ces derniers mois, et du coup la récession aux États-Unis serait d'autant plus forte, mais également parce que la Chine, depuis 2 ou 3 ans, a réussi à s'affirmer comme un leader commercial en Asie, plus que le Japon notamment, elle développe maintenant des partenaires commerciaux privilégiés dans cette région, et plus avantageux pour elle que les États-Unis. Elle a tendance à s'isoler régionalement, et du coup, elle fait profiter de ses avantages commerciaux à de nouveaux pays et pas aux États-Unis. Donc en conclusion, je dirais que, contrairement à ce que pense Donald Trump, il ne faut pas détester les Chinois. Ils aident beaucoup l'économie mondiale, même si c'est pour leur visée proprement stratégique. Et donc, le protectionnisme de Trump a un risque, ce serait d'isoler la Chine, qui en peinerait moins que les États-Unis. Et notamment, ça ne permettrait pas aux États-Unis de profiter de ce moteur économique que la Chine représente depuis maintenant une dizaine d'années.
Merci beaucoup, Robin, pour cette chronique, ta deuxième chronique qui décortique un petit peu l'économie trumpienne.
Oui, on est obligé d'y passer en ce moment, j'ai l'impression.
Oui, en effet. Bon, eh bien, merci. Et on prend un petit peu de hauteur, car ici, on amplifie aussi les distances avec Léo, qui nous amène dans l'espace.
Exactement.
Alerte au Mexique avec l'ouragan Patricia classé en catégorie 5, potentiellement catastrophique.
They have finally found the Higgs photon. 2 millions de victimes de la grippe. Le début des pandémies.
A major outbreak of Ebola.
The death toll is rising in Nepal after a massive 7.8 magnitude earthquake struck the region.
Alors donc pour commencer ce petit édito scientifique, qu'on va tout d'abord aller juste au-dessus de nos têtes, hein, donc, pour ceux qui ont suivi l'actualité, qu'hier soir à 21h20, heure de Paris, l'astronaute Thomas Pesquet a décollé de Baïkonour à bord d'un vaisseau Soyouz pour rejoindre l'ISS qui se situe environ à 450 km au-dessus du plancher des vaches, le faisant devenir le 10e Français à aller dans l'espace. Il va y rester pour un petit séjour de 6 mois, avec vue imprenable sur notre bonne vieille Terre, jusqu'en avril 2017 donc. Mais le voyage n'est pas une grosse partie de plaisir, car lui et ses deux confrères américains et russes vont se retrouver serrés, donc en ce moment, je parle, pendant 48 heures dans la petite capsule du Soyouz, avec un confort que vous imaginez bien relatif. Bon, il a toutefois emmené un jeu de cartes et des dés, hein. Après tout ça ressemble au départ en vacances, mais sans l'arrêt sur les aires de repos et sans la conduite non plus. Sa préparation à cette mission a duré environ 7 ans, ne serait-ce que pour rendre apte physiquement son corps à encaisser les jets au décollage et à tenir les ciments en apesanteur réduite, mais aussi à apprendre sur le bout des doigts la structure de l'ISS et du Soyouz, comment gérer tout ça et pouvoir faire face notamment aux divers problèmes techniques qui pourraient leur tomber dessus sans crier gare.
Et alors en quoi consistera sa mission ?
Une chose qui est sûre, c'est qu'il ne va pas avoir le temps de s'ennuyer. Plus de 200 expériences dans des domaines aussi variés que la santé, la biologie, la physique des matériaux et bien d'autres sont prévus pour la mission. Les résultats de ces expériences en microgravité seront transmises à la Terre pour être analysés et pouvoir fournir des données importantes, notamment en santé sur la résistance du corps humain au long séjour dans l'espace. Avec bien entendu en tête les potentielles missions futures vers la planète rouge, j'ai nommé Mars.
Justement, en parlant de Mars, est-ce qu'on en sait un peu plus sur la perte de Schiaparelli, l'atterrisseur de l'Agence spatiale européenne ?
Alors un peu plus, même si on a encore beaucoup de simples conjectures. Pour ceux qui ont loupé l'épisode, petit rappel. Le 19 octobre, l'ESA exécutait la phase finale d'une mission délicate sur Mars en deux volets importants. D'un, la mise en orbite d'un deuxième satellite autour de Mars, TGO, et de deux, l'atterrissage à la surface d'un petit module, Schiaparelli, ayant peu d'intérêt scientifique en soi, car il transporte quasiment pas d'instruments excepté une station météo, mais par contre très important au niveau technique pour que l'ESA vérifie ses protocoles d'atterrissage sur Mars en vue d'une prochaine mission qui, elle, va viser à larguer un rover vers 2020. Alors, la mise en orbite de TGO fut un succès, mais aucun signal ne vint de Schiaparelli, et le 21 octobre, un satellite américain, MGO, donc en orbite autour de Mars, confirma le crash du module sur la planète rouge à 1 km de son parachute déployé. Les données télémétriques de la descente, vitales pour l'ESA, ont révélé que les rétrofusées de Schiaparelli ont dysfonctionné, ce qui n'a pas ralenti la chute du rover. Ce dernier a ainsi plongé à une vitesse supérieure à 300 km/h pendant plusieurs minutes, ce qui, bon, n'a laissé aucune chance électronique dedans. Les ingénieurs suspectent un bug dans le logiciel compilant les données d'altimétrie. Le robot aurait interprété être une altitude plus basse que la réalité, et il aurait donc coupé ses fusées prématurément, expliquant l'atterrissage plutôt violent à la surface.
Pas de chance pour l'ESA qui perd un deuxième atterrisseur sur Mars donc.
Eh oui, exact. Il y a 13 ans, en 2003, l'agence a perdu lors de son atterrissage le contact avec le module Beagle 2, tandis que le satellite Mars Express était lui correctement mis en orbite, hein, comme pour la mission en 2016. Plus récemment, et même si on est dans un contexte assez différent, la pose de filet sur la comète Chury avait été également assez acrobatique, hein, même si elle avait pu rétablir le contact au bout de quelques jours. Alors, il reste à espérer que ces demi-échecs soient effacés par la réussite de la pose du rover ExoMars à la surface de la planète rouge dans 4 ans. Mais en attendant, il faut croiser les doigts pour que cela ne remette pas en cause le vote de la rallonge budgétaire nécessaire à la réussite de la mission. Parce que bon, faut bien l'avouer, hein, l'exploration spatiale, c'est classe.
Merci beaucoup Léo pour cette chronique scientifique. Encore un bug informatique, mais que font ces informaticiens ?
On se le demande.
Bon, eh bien merci beaucoup Léo, et il est temps de passer à l'indispensable volet culturel de ce journal avec Marie et Raph. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Rémi.
Bonjour Rémi.
Bonjour à tous. les potères, les rabelles, les berlioz, les bons passants, les renoirs et les rembrandts qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas. La culture est une valeur.
Alors, au programme aujourd'hui, de mystérieux carnets oubliés, une bataille artistique et médiatique et une revue des événements théâtraux en fin de, pour cette fin de mois de novembre par RAF.
Alors pour commencer, Marie, tu vas nous parler d'un nouveau festival.
Oui, mea culpa, dans le dernier journal de la culture, je vous parlais de la fin de l'effervescence de la rentrée et avec elle de ces festivals. Mais certains continuent encore. Et c'est le cas d'Interférence, un festival qui propose un programme très riche autour de films documentaires, avec des rencontres entre réalisateurs, chercheurs et publics. Donc cette année, sa première édition débutait le 15 septembre et se termine le 26 novembre.
Donc c'est dans une semaine, donc.
Oui, bon, en effet, dans une semaine. Alors j'espère que vous ne m'avez pas forcément attendu pour en profiter. Mais pour les retardataires qui, comme moi, avaient vu passer les affiches sans vraiment prendre note dans leurs agendas, il est encore temps de se rattraper. Donc, jeudi prochain, le 24 novembre, une rencontre a retenu mon attention. Il s'agit du documentaire d'Anne Georget, Festins imaginaires, qui propose un regard assez inattendu sur les camps nazis, le goulag et les camps japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ah, encore un documentaire de plus sur l'univers des camps.
Eh bien non, justement, parce qu'ici, Anne Georget est partie à la quête de documents inouïs, des carnets de recettes de cuisine, rédigés dans l'enceinte de ces camps par des déportés, dont la faim et la mort peuplaient le quotidien. Alors c'est une somme documentaire qui n'avait jusque-là pas fait l'objet de recherches scientifiques et était restée dans les familles des déportés. Ce sont des carnets intimes rédigés dans la plus grande clandestinité qui interrogent et qui fascinent entre une tentative de sauver un héritage immatériel ou un moyen d'échapper à l'horreur. Par exemple, une rescapée témoigne dans le documentaire. Elle dit « En parlant de ces repas somptueux, nous avalions notre salive et nous étions finalement repus, soulagés par une satiété imaginaire ». Donc soumise à la réflexion de philosophes, d'historiens, de psychanalystes ou de neurologues, cette littérature d'apparence triviale, rédigée à plusieurs endroits du monde par des hommes et des femmes de tous âges, semble ici porter en elle quelque chose de l'humanité tout entière. Et c'est donc jeudi 24 novembre à 18h30 au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation. Et le Festival Interférence, lui, se clôture dimanche prochain lors d'une soirée spéciale.
Sur la scène internationale, une parution événement semble déjà faire polémique.
Et oui, Le Seuil a dévoilé ce mardi 15 novembre 65 dessins réunis dans un carnet et attribués à Van Gogh. Alors la réunion de ces dessins inédits devait constituer un gros coup pour l'éditeur qui les faisait paraître simultanément en France, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon. Donc présentés comme de véritables trésors, ces esquisses sont tirées d'un livre de contes à papier vierge qui sert de support à Van Gogh, tout juste arrivé à Arles. Et l'ouvrage restitue donc la trace d'un travail quotidien au plus près de l'artiste, conservant ainsi intacte une forme de spontanéité du trait qui est particulièrement émouvante.
On devrait donc se réjouir d'une telle découverte.
Oui, en effet, le succès aurait dû être total, mais c'était sans compter le retournement de situation lorsqu'à 2 jours seulement de la publication, 2 experts du musée Van Gogh d'Amsterdam affirment qu'il ne s'agit là que d'imitation. Donc c'est une remise en cause de l'authenticité, mais surtout une remise en cause de près de 2 années de travail et de recherche scientifique qui ont précédé la parution. Donc l'éditeur français s'est empressé de démentir dans une conférence de presse, affirmant que le musée Van Gogh n'avait pas assez d'éléments pour juger, avançant également dans une interview que l'émotion qu'il avait ressentie devant ses dessins avait été si forte pour lui qu'il ne pouvait pas douter de leur authenticité. Alors, on peut quand même un peu s'étonner de cet argument, s'étonner de l'absence de toute collaboration entre les équipes scientifiques des deux pays autour d'une telle découverte. Enfin bref, c'est une bataille d'experts qui vire à la bataille médiatique et qui prend un tour assez pathétique, voire grotesque. Entre communiqués de presse et réponses par médias interposés, on se demande si on doit rire ou pleurer de cette guéguerre pour qui obtiendra le monopole autour de l'artiste, et soyons clairs, le monopole des bénéfices engendrés. Alors qu'il y a 1 an, à New York, on atteignait une somme record pour la vente d'une toile de Van Gogh, 66 millions de dollars, rappelons simplement que celui-ci n'avait vendu qu'une seule toile de son vivant. Bon, on attend quand même la suite de ce feuilleton tristement rocambolesque, et le titre de l'ouvrage, Van Gogh, le brouillard d'Arles, semble prendre désormais une connotation bien ironique.
Alors merci Marie. Aujourd'hui, donc, je vais évoquer avec vous des événements importants qui se déroule à Lyon en cette fin de novembre. On a un concentré véritable de grands noms, de grands metteurs en scène, de grands spectacles et de grandes rencontres qui vont commencer avec la journée des auteurs de théâtre, la journée des Lyons des auteurs de théâtre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival d'écriture, un concours d'écriture très très important dans le paysage théâtral français. C'est organisé avec la médiathèque de Vez et l'ENSAT. C'est entre le jeudi 24 novembre et le samedi 26 novembre. Alors il y a plusieurs événements intéressants dans ces journées. D'abord le principe de ces journées, il s'agit de récompenser des textes qui ont été spécialement envoyés pour ce festival et qui sont jugés par un jury. Et donc ces textes, une fois choisis, font l'objet d'une publication donc, dans les maisons d'édition partenaires de l'événement. Je vous invite à aller voir sur le site de théâtrecontemporain.net les précisions sur cet événement. Et je vous laisse surtout découvrir le samedi 26 novembre de 10h à 17h à la médiathèque de Vez, le salon du livre de théâtre. Et là, c'est un événement très intéressant puisque sont présents directement les éditeurs de théâtre, en tout cas un certain nombre d'entre eux, puisque ce ne sont pas spécifiquement les maisons d'édition de théâtre, des grandes maisons d'édition. Les éditeurs ont un lien direct avec le monde du spectacle vivant et parfois même avec les librairies. Et donc c'est très intéressant de pouvoir rencontrer tous ces professionnels pour voir les dernières parutions, pour discuter avec eux. Voilà, c'est un grand moment de rencontre et d'échange que ces journées de Lyon des auteurs de théâtre.
Alors qu'est-ce qui se passe autrement au Théâtre des Célestins en ce moment ?
Alors au Théâtre des Célestins a eu lieu mardi 15 novembre la première de tableau d'une exécution, donc la nouvelle mise en scène de Claudia Stavisky, donc qui se joue jusqu'au 7 décembre. Alors il s'agit d'une création 2016 du Théâtre des Célestins, et donc tableau d'une exécution est une pièce du dramaturge Howard Barker qui, avec tableau d'une exécution, nous livre une histoire troublante, une histoire qui mélange l'art et la politique et qui montre en quoi les deux peuvent être ennemis. Pour vous donner envie d'aller voir ce travail, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la pièce, je vous laisse découvrir par vous-même de quoi il pourrait s'agir. En revanche, je vais vous lire un extrait assez court d'un recueil, d'aphorismes, disons, d'Howard Barker dans un livre qui s'appelle La mort, l'unique et l'art du théâtre, publié au Solitaire intempestif. Je vais laisser Marie lire ce texte pour nous.
Comme le théâtre ne fait plus de la mort son sujet de prédilection, il a renoncé son autorité sur l'âme humaine. Comme il s'est laissé impliquer dans de vulgaires projets d'endoctrinement politique et de thérapie sociale, il a abdiqué son pouvoir. Toujours le théâtre se laisse subordonner par l'idéalisme de ceux qui le font. Toujours, il se laisse calomnier par les adeptes du sentiment. Dans l'art du théâtre, on a pitié de l'idéalisme comme on aurait pitié de l'homme atteint d'une maladie incurable. Cette pitié est strictement circonscrite. Tandis que nombreux sont ceux qui ont tenté de transformer le théâtre en hôpital, nous faisons en sorte que notre scène demeure indemne de toute infection.
Autre spectacle que nous allons évoquer ensemble, il s'agit des Chiens de Navarre. Ce collectif de théâtre, désormais célèbre pour sa folie et le désordre total qui règne dans ses mises en scène, pour son spectacle « Quand je pense qu'on va vieillir ensemble », donc dirigé par Jean-Christophe Meurice, qui est un coordinateur, disons, de ce collectif des Chiens de Navarre. Cette pièce va se jouer du jeudi 24 au samedi 26 novembre aux Subsistances. Donc c'est une pièce qui met en question et qui surtout tourne en dérision ce que serait, ce que pourrait être le développement individuel. Dernière pièce dont je vais parler ici, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du Battlefield de Peter Brook et de Marie-Hélène Estienne, qui va se jouer du 30 novembre au 1er décembre au Radiant Bellevue à 20h30 à Calure et Cuir. Alors je vais évoquer brièvement cette pièce, l'histoire de cette pièce, puisque cette pièce est tirée d'une très célèbre pièce de Peter Brook qu'il avait montée dans la carrière de Boulbon au Festival d'Avignon Inn dans les années 80. Ce fameux spectacle devenu mythique pour tous les étudiants en théâtre et pour tous les spectateurs avertis de théâtre, l'adaptation du Maratbata avec l'aide de Jean-Claude Carrière dans une version qui avait duré à l'époque 9 heures. Et donc la Peter Brook revient sur ce travail 30 ans après. Ça a aussi un sens quand on sait l'âge que peut avoir ce monsieur qui a aujourd'hui quand même 90 ans et qui fait partie des derniers monstres de la scène encore vivants. Et donc il faut profiter de cette chance encore qu'on ait ce grand homme qui soit encore en vie pour aller voir son spectacle, donc, qui se joue cette fois dans un format réduit, qui se joue avec 4 comédiens et qui, comme toujours dans le théâtre de Peter Brook, nous terrifie, nous emporte dans la critique de ce monde terrifiant dans lequel nous vivons. Et donc, comme dans n'importe quel travail de Peter Brook, pour les amateurs et pour ceux qui ne connaissent pas, on est vraiment aux frontières entre le théâtre africain, shakespearien et la tragédie grecque. C'est un metteur en scène qui joue beaucoup sur la poésie du corps, la poésie des mots, la poésie de la chair. Donc c'est le Maratbata, Battlefield après le Maratbata, dans une adaptation, une mise en scène de Peter Brook et de Marie-Hélène Estienne. Et c'est du 30 novembre au 1er décembre au Radiant Bellevue à 20h30 à Caluire-et-Cuire. Et prenez vos places parce qu'à mon avis, il va pas en rester beaucoup. Enfin, pour terminer, Marie, certains sujets... on m'a dit, surplombe l'actualité.
Oui, en effet, parce que cela fait maintenant plus d'une semaine aujourd'hui que nous avons appris le départ d'une voix, celle de Leonard Cohen. Alors comment ne pas lui rendre hommage aujourd'hui? Mais de la même façon, comment lui rendre hommage? Comment parler en quelques mots et au passé de cet artiste dont la présence s'imposait encore à nous avec une telle force et une telle évidence? Tout à la fois poète mélancolique et symbole d'une époque, Leonard Cohen, pour moi, est celui qui a pu accompagner par sa voix aussi bien cette douce nostalgie d'un temps que l'on n'a pas connu mais auquel on a tant rêvé, que nos balades intérieures, nos introspections plus ou moins sombres. Alors j'aurais pu choisir un extrait de son dernier album, si poignant à écouter désormais, ou un titre plus intimiste, mais c'est avec So Long Marianne que je vais clore ces quelques lignes, un titre qui reflète pour moi cette double image, celle d'un mythe, certes, mais un mythe sans cesse renouvelé qui nous touche pareillement à chaque écoute et pour longtemps encore. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy. Before I let you take me home. Now so long, Marianne. It's time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.
Merci beaucoup à tous les deux, Raph et Marie, et puis merci Marie pour nous avoir fait partager une dernière fois la voix de Leonard Cohen, à laquelle on tient tant.
Merci Rémi.
Eh bien ce sera donc avec cette voix que nous nous quitterons pour aujourd'hui. C'était le journal radiophonique amplifié, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec aujourd'hui Pierre Lemoël, Marie Lécuyer, Robin Lenoir, Léo Bertrand, Marie Blanc et Raph. L'actualité continue sur Transistor, vous pouvez en effet commenter cette émission et puis vous retrouverez Tous Politiques samedi prochain. Quant à nous, nous vous retrouvons dans 2 semaines, toujours sur transistor.fr.